VOA Afrique, les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Il est 17h à Bamako, 19h à Bujumbura. Bienvenue à l'écoute de ce tour de l'actualité en 10 minutes. Au Burundi, reprise en demi-teinte des pourparlers pour tenter de mettre un terme à la crise politique, l'ONU a en effet relancé aujourd'hui à Bujumbura sa médiation en présence de la société civile, de l'opposition et des chefs religieux du pays, mais en l'absence remarquée, Jean-Roger Billon, du camp gouvernemental.
Le ministre burundais de l'Intérieur, Edouard Ndiwumana, censé représenter le gouvernement, était absent d'après l'AFP. Le parti présidentiel CNDD-FDD a clairement dit ne pas vouloir participer, estimant que l'initiative en pleine campagne à 5 jours de scrutin visait à perturber les élections. La réunion était placée sous l'égide du nouveau médiateur, le Sénégalais Abdoulaye Batili, représentant de l'ONU en Afrique centrale. L'opposition conteste la tenue des élections législatives et communales prévues le 29 juin et la communauté internationale réclame leur report, estimant les conditions pas propices. Les pourparlers achoppent sur la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat lors de la présidentielle du 15 juillet. Une ONG burundaise affirme qu'au moins 70 personnes ont péri depuis le début de la crise politique fin avril, alors que plus de 100 000 Burundais ont déjà fui vers les pays voisins à cause du climat préélectoral délétère dans leur pays.
Autre grosse actualité du jour, l'arrestation d'Emmanuel Karenzi Karake, chef des services de renseignement du Rwanda, samedi dernier, fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Kigali est révolté et demande sa relaxation immédiate. Le général a été interpellé à Londres sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne. Il est accusé de crimes de terrorisme. Salwa Jaafari.
À Kigali, la nouvelle est tombée comme un couperet. L'arrestation du général Karake est outrageante. Le gouvernement dénonce ce qu'il appelle une horreur avec toutes les pires théories conspiratrices. Mais la nouvelle n'a pas fait que des mécontents. Écoutez Ignacio Joftis d'Amnesty International.
C'est une bonne nouvelle pour la lutte contre l'impunité dans le cas de cette grande violation des droits humains. Nous espérons que cette personne vienne en Espagne et qu'elle comparaisse devant le tribunal espagnol.
Mais qui est donc Emmanuel Karenzi Karake et comment expliquer sa mauvaise posture ? 54 ans, c'est une personnalité clé du régime rwandais. Souvent surnommé Kaka, il est l'une des figures de l'ancienne rébellion à dominante Tutsi. Dans un acte d'accusation émis le 6 février 2008, la justice espagnole avait demandé l'arrestation de 40 responsables rwandais, dont le général, qui auraient eu connaissance et approuvé le massacre de civils entre 1994 et 1997 dans les villes de Rwengira, Gizei et Siengugu, y compris la mort de 3 travailleurs humanitaires espagnols. La justice espagnole a indiqué ce matin avoir lancé la procédure de demande de sa remise à l'Espagne. L'audience nationale n'était cependant pas en mesure de préciser quand cette instance se prononcerait.
Crise politique en Guinée. Le chef de file de l'opposition, c'est Loud Alain Diallo, prêt à conclure une alliance électorale avec son ancien adversaire, l'ex-chef de la junte militaire, Moussa Dadis Camara. C'est ce qu'annonce l'AFP, citant des déclarations de M. Diallo la semaine dernière à Ouagadougou, où le capitaine Camara vit en exil. C'est Loud Alain Diallo reconnaît s'être entretenu à plusieurs reprises ces dernières années avec l'ex-leader de la junte et les deux hommes auraient des convergences de vues, d'après le chef de file de l'opposition guinéenne. Les enseignants gabonais ont lancé ce mardi une grève d'avertissement de 3 jours pour faire aboutir leurs revendications salariales à l'appel de la CONACYSED, qui regroupe les principaux syndicats de l'éducation nationale. C'est ce que rapporte l'AFP. Les enseignants réclament le déboursement de leurs bons de caisse permettant le versement des salaires de mars, avril et mai, ainsi que le paiement de différentes primes d'incitation dont certains règlements ont plusieurs mois de retard. Ils ont également dénoncé le mépris des autorités à leur égard. République centrafricaine, 10 personnes ont été tuées et au moins 12 blessées dans un accident de la route survenu dans le nord-ouest du pays. L'accident, que rapporte l'AFP ce mardi, s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi sur une route nouvellement bitumée reliant Bouar, ancienne base militaire française, au poste frontière de Garoua-Boulaï au Cameroun. Le président sud-africain a défendu ce mardi le comportement des policiers qui ont abattu 34 mineurs grévistes à la mine de Marikana en août 2012. Jacob Zuma expliquant qu'il les avait empêchés de tuer d'autres gens. Le président n'a pas fait d'autres commentaires, indique l'AFP.
VOA Afrique en direct de Washington.
Dans le cahier international, un recruteur du groupe État islamique a été tué dans un raid de l'aviation américaine le 15 juin à Mossoul, dans le nord de l'Irak. C'est ce qu'a annoncé lundi un porte-parole du Pentagone. Le point avec Camille Grosdidier.
Selon le colonel Steve Warren, Ali Oni Al-Khazi était également soupçonné d'être impliqué dans l'attaque du 11 septembre 2012 contre le consulat des États-Unis à Benghazi, en Libye, qui a coûté la vie à 4 Américains, dont l'ambassadeur Christopher Stevens. Sa mort va affaiblir les capacités de l'État islamique à intégrer des djihadistes originaires d'Afrique du Nord sur les fronts irakiens et syriens et élimine un djihadiste ancré de longue date dans le terrorisme international, a souligné le colonel Warren. Le département d'État et les Nations Unies avaient désigné Al-Khazi comme terroriste plus tôt cette année. Le militant aurait rejoint Ansar al-Sharia en Tunisie en 2011 et il avait aidé par la suite à recruter des combattants. Il aurait aidé ces derniers à s'infiltrer en Tunisie et en Syrie tout en introduisant des armes en contrebande en Tunisie.
Toujours à l'étranger, une commission d'enquête de l'ONU a peint ce mardi un sombre tableau de la situation en Syrie, 4 ans après le début de la contestation contre le régime de Bachar al-Assad. Dans ce rapport, tous les protagonistes de la crise sont critiqués pour avoir imposé à plusieurs villes des sièges aux effets dévastateurs. Lionel Gaïma.
Paolo Pinheiro, responsable de la commission d'enquête sur la Syrie, a déclaré devant le Conseil des droits humains de l'ONU à Genève que très peu d'efforts ont été déployés par les parties en conflit. Le gouvernement, les combattants rebelles et les djihadistes du groupe État islamique pour respecter les prescrits du droit international. Des attaques sont menées de manière délibérée et indiscriminée contre les régions habitées par les civils. Il en résulte un degré de traumatisme qu'on ne peut pas sous-estimer, a-t-il fait remarquer. Les sièges et le déni prolongé d'accès à l'aide humanitaire ont conduit à la malnutrition et à la famine, a ajouté M. Pinheiro. Le rapport de l'ONU dénonce par ailleurs l'incapacité de la communauté internationale à forger une solution à ce conflit qui, en 4 ans, a causé la mort de plus de 220 000 personnes, la relocation de plus de 4 millions à l'intérieur de la Syrie et l'immigration forcée d'environ 7,5 millions d'autres vers les pays voisins. En outre, estime le HCR, plus de 12 millions de personnes ont maintenant besoin d'aide en Syrie à cause de la violence. Damas rejette le rapport et accuse la commission de partialité.
Washington envisage le déploiement temporaire d'armements lourds sur le flanc est de l'OTAN sans mobiliser de troupes au moment où les affrontements semblent s'intensifier en Ukraine. Le dernier bilan fait état de 4 morts selon l'AFP. Les chefs de la diplomatie russe, ukrainienne, française et allemande doivent se pencher ce mardi à Paris sur la mise en œuvre des accords de paix de Minsk en Ukraine au lendemain de la prolongation jusqu'à janvier 2016 par l'Union européenne des sanctions économiques prononcée contre la Russie pour le rôle qu'elle est accusée de jouer dans la crise ukrainienne. La justice française a rejeté ce mardi la requête d'une mère qui lui demandait de condamner l'État pour ne pas avoir empêché son fils de partir combattre en Syrie alors qu'il était mineur. Dans son jugement, le tribunal administratif de Paris estimait que les services de police qui avaient contrôlé le jeune homme à l'aéroport de Nice avant qu'il n'embarque pour la Turquie n'ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Le président Barack Obama a exprimé son opposition aux préjugés basés sur la religion lors d'un repas de rupture du jeûne du Ramadan hier soir à la Maison-Blanche, en compagnie notamment de diplomates, de parlementaires et de musulmans américains. Il a souligné que ce repas d'iftar est un symbole des libertés qui unissent les Américains, y compris le droit de pratiquer librement leur religion. Le chef de l'exécutif a également condamné les récents assassinats de fidèles dans une église noire de Charleston en Caroline du Sud. En tant qu'Américain, a-t-il affirmé, nous mettons l'accent sur le fait que personne ne doit être à la cible en raison de son identité, son apparence, son choix de partenaire ou sa religion. Et voilà donc pour ce tour d'horizon de l'actualité. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 20 minutes. Ce sera dans Le Monde aujourd'hui avec Morgane Guériec et Chérubin Dorsil. C'était Jacques Aristide à Washington. Bonne écoute sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.